franceinter.fr.
À quand remonte le premier pas d'un homme moderne sur le continent américain? Grande question qui agite d'ailleurs toujours les scientifiques depuis des années, et de nouveaux éléments de réponse publiés cette semaine dans la revue Plus One. C'est aujourd'hui à la une de la science avec des os de mammifères vieux de 25 000 ans marqués par l'homme et découverts dans la grotte de Bluefish entre l'Alaska et le Canada, et qui recule de 10 000 ans la date d'arrivée des premiers colons américains. On en parle avec vous, Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck à Leipzig. Comment se fait-il, Jean-Jacques Hublin, que l'histoire des premiers hommes sur le continent américain soit encore si mal connue?
Eh bien, elle est mal connue parce que les premières traces, comme c'est généralement le cas, sont rares et sont donc difficiles à découvrir, difficiles à dater. Et puis alors, il y a aussi une autre dimension, c'est que bien que l'Amérique du Nord compte un grand nombre de spécialistes tout à fait compétents, il y a aussi une espèce de nostalgie de la vieille Europe qui règne là-bas, hein. Et donc, dans le fond, régulièrement, on a des découvertes qui sont annoncées de sites très très anciens. Qui dans le fond sont rapidement rejetés par la communauté scientifique, hein. Il faut quand même bien comprendre que le peuplement des Amériques, c'est quelque chose qui date d'hier, à l'échelle des temps géologiques. On est très très loin des 2 millions d'années de peuplement par le genre homo de l'Afrique et de l'Eurasie.
Alors, ces os de caribou, de chevaux qui datent de moins 25 000 ans, découverts dans cette grotte de Bluefish en Alaska, qu'est-ce qui vient de changer dans toute cette histoire?
Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce peuplement, il intervient autour d'un phénomène climatique majeur, qui est le dernier maximum glaciaire. Donc c'est le dernier grand pic de froid autour d'il y a environ 20-22 000 ans. Et ce pic de froid en Amérique du Nord se traduit par le développement de masses glaciaires énormes, plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, sur toute l'étendue du Canada et du Groenland. Et donc on a deux régions complètement séparées l'une de l'autre. D'abord l'Alaska et un petit bout du Canada au l'extrême nord-ouest, et puis tout le reste des Amériques au sud de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc une des questions qui se pose, c'est de savoir quand les premiers hommes sont arrivés au sud de ces masses glaciaires, et puis aussi quand est-ce qu'ils sont arrivés depuis la Sibérie au nord. Et on a à la veille plutôt de ce maximum glaciaire, on a une région qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on appelle la Béringie, et qui est une région qui est découverte par le retrait des niveaux marins et qui s'étend entre l'Alaska actuel et puis la Sibérie. Donc la question qui agite pas mal de scientifiques, c'est de savoir quand est-ce que les hommes sont arrivés aussi haut en latitude dans ces confins de la Sibérie et de l'Alaska.
Donc il y avait un bouchon de glace complètement qui empêchait l'homme d'arriver jusqu'en Amérique.
C'est-à-dire que l'Alaska, c'est déjà l'Amérique, hein, mais ce bouchon de glace, effectivement, il sépare l'Amérique en deux. Un tout petit bout au nord-ouest qui est rattaché à la Sibérie, et puis tout le reste de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, au sud du Canada.
Jean-Jacques Hublin, juste pour bien comprendre, parce qu'on parle d'eau, de caribou et de chevaux, quel est le lien finalement avec les humains et comment on en arrive justement à déduire que les humains sont arrivés à cette période?
Ce gisement de Bluefish Caves, il est connu depuis assez longtemps, hein. Ce sont deux petites grottes où on a découvert des milliers de restes osseux d'animaux. Et ces restes osseux, la plupart d'entre eux ont été accumulés par des carnivores. Donc ce sont des tanières de loups, d'ours, il y a du lion aussi dans la région. Et au milieu de tous ces milliers d'ossements, on a quand même quelques outils de pierre, pas beaucoup, quelque chose comme 200 artefacts qui ont été trouvés. Et donc depuis très longtemps, on se pose la question de l'âge de ces industries. Ce qui est intéressant avec le papier qui vient d'être publié, c'est que parmi tous ces ossements d'animaux, de caribous, de chevaux qui ont été trouvés dans les grottes de Bluefish, eh bien, on a extrait des os qui portent des traces de découpe avec des outils de silex. Et donc ça, c'est une preuve, j'allais dire, directe de l'action humaine sur ces objets et donc de la présence de l'homme. Et on a aujourd'hui les moyens, ce qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, de prendre un demi-milligramme d'os et de dater directement un objet comme cette mandibule de cheval. Et donc, en faisant cela, on a pu dater non pas, évidemment, les outils de silex, mais en tout cas, ce sur quoi ils se sont exercés. Et l'âge qui a été déterminé, sur plusieurs ossements, hein, mais surtout deux, cette mandibule de cheval et ce bassin de reine, donc nous renvoie très avant les dates pour lesquelles jusqu'à présent on pensait que la présence humaine était prouvée.
Mais justement, pour faire un point sur les dates, on sait que l'homme était aux portes du continent il y a 25 000 ans. Quand est-ce qu'il a commencé à réellement descendre et à coloniser l'entièreté du continent américain ?
Alors la colonisation de l'Amérique, elle se produit quand le bouchon de glace commence à fondre, et ça, disons, c'est autour de 15 000 ans avant le présent. On a longtemps cru que ce peuplement s'était fait par l'intérieur des terres, à travers un espèce de corridor entre les glaciers. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que ce peuplement s'est fait le long de la côte, et c'est là que il y a à peu près 14 500 ans, quelque chose comme ça, on commence à avoir un passage praticable entre les glaciers qui couvrent les montagnes rocheuses et puis le Pacifique. Et des hommes qui, d'ailleurs, probablement maîtrisent déjà assez bien la navigation, se pénètrent, disons, au sud du Canada, dans les États-Unis actuels, et vont d'ailleurs très très vite se répandre vers l'Amérique du Sud, puisque presque immédiatement, hein, à la même date, 14 500, on a déjà un site au Chili avec une présence humaine.
Ah oui, donc ça crapahutait quand même très vite. Hein,
vous savez, il y a des gens qui traversent l'Atlantique en barque en quelques ouais. semaines, quelques mois. Hein. Donc si vous avez de quoi manger et que vous êtes motivé, vous pouvez ouais. aller très loin en bateau, hein, et très vite. Hein.
Merci Jean-Jacques Hublin pour votre éclairage donc, sur ces premiers Américains, études publiées dans la revue Plus One. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, régénérer artificiellement de la peau avec des poils et des cellules graisseuses, eh bien c'est ce que sont parvenus à réaliser des chercheurs de Pennsylvanie en collaboration avec un laboratoire Plicus. Jusqu'à aujourd'hui, on savait générer du tissu cicatriciel, mais pas de la peau avec ses poils et ses cellules adipeuses. C'est ce qu'ont obtenu les scientifiques américains. La clé de leur succès tient dans une découverte des cellules présentes dans les cicatrices qui peuvent être transformées en cellules graisseuses grâce à une protéine émise par les poils. Découvrir le sexe d'un bébé grâce à la pression artérielle de sa mère avant la grossesse, eh bien cette constatation nous vient d'une étude canadienne menée sur 1400 femmes et publiée aujourd'hui. Environ 6 mois avant leur grossesse, les scientifiques ont réalisé sur ces futures mères des bilans physiologiques, mesurant entre autres leur tension, leur niveau de glucose ou de cholestérol, et ils ont constaté que la pression artérielle systolique en moyenne des femmes ayant donné naissance à des garçons était plus haute que celle ayant accouché de filles, lien statistique qui reste à expliquer mais qui pourrait intéresser quand même les chercheurs travaillant sur l'aide à la procréation. Et puis plus léger que le plastique et 10 fois plus résistant que l'acier, ce sont les surprenantes caractéristiques d'un nouveau matériau créé par des scientifiques du MIT, composé de graphène, un matériau extrêmement résistant. La nouveauté de ce nouveau matériau n'est pas tant sa composition que sa structure. Les feuilles de graphène ondulées sont associées pour créer un gyroïde, une structure tridimensionnelle rappelant la forme des éponges ou des coraux. Si les chercheurs doutent de nos capacités actuelles à produire à l'échelle industrielle ce super matériau, ils imaginent déjà quand même de futurs bâtiments ultra légers mais hyper résistants.